VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Crise burundaise, aucune date n'a été fixée pour le prochain dialogue inclusif au Burundi après la rencontre de ce vendredi entre l'ancien chef d'État tanzanien et l'ancien chef d'État tanzanien Benjamin Mkapa et le président burundais Pierre Nkurunziza. Le co-facilitateur tanzanien veut prendre le temps de la réflexion et écouter les protagonistes avec toute l'attention possible pour amener la paix entre les parties en litige au Burundi. Le président burundais, lui, se dit confiant qu'avec cette facilitation tanzanienne, la paix pourra pointer à l'horizon après plus de 10 mois de violence. Des détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Après avoir rencontré les présidents Museveni de l'Ouganda, Kagame du Rwanda, le facilitateur dans la crise burundaise, l'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa, s'est entretenu ce vendredi pendant presque 2 heures avec le numéro 1 burundais. Il voulait s'informer sur la situation prévalente dans ces 3 pays au cours des 10 dernières années. L'ancien président tanzanien veut la relance du dialogue inclusif pour une paix durable dans la région, Benjamin Mkapa.
To express the hope that the peace and stability that has characterized these first 10 years of the Arusha process will continue.
Premièrement, j'ai l'espoir que la paix et la stabilité qui a caractérisé le Burundi pendant ces 10 dernières années après Arusha va continuer. J'ai de l'espoir aussi qu'aucune violence ne va plus se manifester comme cela a prévalu au Burundi ces derniers mois. J'ai rassuré le président burundais qu'après mûre réflexion sur notre rôle et notre participation, l'on pourra mettre fin aux spéculations à propos des possibilités de violence, de confrontation et même de la guerre entre les pays membres de la communauté est-africaine au vu des derniers développements au Burundi, au Rwanda et en Tanzanie, car nous sommes une même communauté, nous sommes des voisins, nous devons vivre ensemble dans la paix et ensuite coopérer et nous développer ensemble. Et je suis en train de voir les paramètres de mon nouveau mandat. Je m'exprimerai longtemps après sur ce que j'aurai appris.
Mais aucune date n'a été fixée pour ce dialogue inclusif, comme l'indique William Benjamin Mkapa.
Aucune date pour le prochain dialogue inclusif. Je dois d'abord réfléchir sur ce que m'ont dit les 3 présidents, mais je vais en trouver une. Je sais aussi qu'il y a un dialogue inter-burundais qui se déroule à l'intérieur du pays. Je trouverai une solution pour le renforcement de la réconciliation.
The task of reconciliation.
Le président burundais Pierre Nkurunziza a parlé du Rwandais.
On n'a pas oublié aussi de mentionner donc l'ingérence du Rwanda et que nous avons des preuves et que nous allons même présenter au niveau de la communauté internationale, comme nous a été demandé, pour que donc une fois ils vont recommencer le dialogue à l'extérieur, que cela aussi soit pris en considération pour qu'il y ait la stabilisation de notre pays où tous les intervenants soient connus et que la facilitation aide aussi à ce que cette situation cesse. Nous restons toujours disposés à ce qu'il y ait aussi le dialogue soit élargi aux autres Burundais qui se trouvent à l'extérieur. L'entretien est d'une importance capitale. Pensons très bien avec son expérience, tout ira bien.
Bujumbura et certaines contrées de l'intérieur du pays sont le théâtre des violences qui ont fait plus de 400 morts et poussé plus de 240 000 Burundais à l'exil vers les pays voisins. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Cameroun, 89 condamnations à mort pour terrorisme prononcées contre des militants du groupe islamiste nigérian Boko Haram depuis 1 an. C'est ce que révèlent aujourd'hui des sources judiciaires camerounaises. Des sentences infligées par le tribunal militaire de Maroua dans l'extrême nord du pays. Le Cameroun a adopté, rappelons-le, en décembre 2014, une loi antiterroriste très controversée prévoyant la peine capitale pour les auteurs et complices d'actes de terrorisme. L'apologie du terrorisme y est aussi sévèrement réprimé. Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour élire le premier président d'une nouvelle république instituée par un changement de constitution ayant permis au président Denis Sassou Nguesso de se représenter. 9 candidats sont en lice. Monsieur Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans au pouvoir à Brazzaville, a promis à ses partisans de l'emporter dès le premier tour. Côté opposition, plusieurs candidats se sont engagés à soutenir au second tour l'aspirant à la présidence le mieux placé parmi eux.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Niger, à 3 jours du scrutin présidentiel de dimanche, 3 gendarmes abattus hier dans l'ouest du pays dans une attaque attribuée à Al-Qaïda au Maghreb islamique et un haut responsable militaire tué dans l'est dans un attentat attribué aux islamistes nigériens de Boko Haram. Le point avec Idriss Fall.
D'après Hassimi Massaoudou, ministre de l'Intérieur, l'une des attaques a eu lieu à Dolbel, à la frontière avec le Burkina Faso. Trois gendarmes ont été abattus par des hommes armés qui sont en cavale et l'armée a lancé une vaste chasse à l'homme pour les retrouver. Al-Qaïda au Maghreb islamique est pointé du doigt. L'autre attaque s'est passée à Bosso, dans l'extrême est, près du lac Tchad, à la frontière avec le Nigeria. Cinq kamikazes ont attaqué un détachement de l'armée. Quatre d'entre eux ont activé leur ceinture d'explosifs et le cinquième a été abattu. Un chef militaire a été tué. Boko Haram reste très actif dans cette région sous état d'urgence. Le pays tient dimanche le second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, fera face à Hama Amadou. L'opposant emprisonné depuis novembre a été évacué vers Paris pour un traitement médical. L'opposition nigérienne dit qu'elle ne va pas reconnaître les résultats.
Élection au Bénin maintenant. Le Premier ministre sortant Lionel Zinzou et l'homme d'affaires Patrice Talon s'affrontent dimanche au second tour de la présidentielle qui désignera le successeur du chef de l'État, Thomas Boni Yayi, lequel se retire après deux mandats, conformément à la Constitution. Et puis, le Sénégal tient un référendum dimanche. Le débat s'est focalisé sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Le projet propose 15 réformes de la Constitution sénégalaise. Guinée, le virus Ebola refait surface dans le sud du pays, la région où le premier cas de l'épidémie en Afrique de l'Ouest avait été signalé. Les autorités guinéennes font état de tests positifs et de cas suspects. Les détails avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
La Guinée, qui a été le foyer de la maladie, a connu depuis 2013 près de 4000 cas et a compté officiellement 2536 morts. Le 30 décembre 2015, l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré le pays exempt de transmission du virus. Mais à l'annonce de la fin de l'épidémie, la prudence, la vigilance étaient recommandées. Des mesures qui avaient connu un délaissement. Dans un communiqué publié par le porte-parole du gouvernement, deux cas testés positifs à Ebola à Kouroupara en Zérékouré ont été signalés. Suite à l'examen des échantillons des personnes suspectes d'Ebola dans cette sous-préfecture, les résultats ont révélé la présence du virus à fièvre hémorragique Ebola chez deux personnes de la même famille, des personnes décédées antérieurement, précise Albert Damantan Camara. Pour l'heure, ajoute-t-il, il existe deux cas confirmés et trois cas probables. Les autorités sanitaires ont pris les mesures appropriées afin de circonscrire la propagation de la maladie hors de cette zone, rassure le ministre. Une réunion extraordinaire de la coordination de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola est prévue ce vendredi matin en présence des partenaires impliqués dans la riposte. À l'issue de cette rencontre, des mesures complémentaires seront arrêtées, conclut le communiqué du porte-parole du gouvernement. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma, toujours dans la tourmente politique, Dennis Goldberg, compagnon de lutte de Nelson Mandela et membre de l'ANC au pouvoir, l'appelle à reprendre en main la situation ou à démissionner. Le point avec Nathalie Barge.
Je suis consterné par les signes évidents de corruption d'hommes d'affaires qui s'emparent de fonctions de l'État, a déclaré Denis Goldberg, 82 ans, dont 22 passés en prison sous l'apartheid. Les Gupta, famille d'origine indienne proche de Jacob Zuma, sont accusés par des membres de l'ANC d'intervenir dans l'attribution de postes au gouvernement. Le chef de l'État a deux options. Soit il reprend en main la situation, soit il fait l'autre choix héroïque qui s'offre à lui, démissionner, a estimé Denis Goldberg dans un entretien accordé à deux journalistes, rapporte l'AFP. Membre de la branche armée de l'ANC, il avait été jugé en même temps que Nelson Mandela et avait écopé de la prison à vie en 1964. Je suis attristé que des personnes qui ont été héroïques aient pu à ce point dévier de leur chemin initial, poursuit Denis Goldberg. Sous le régime de l'apartheid, Jacob Zuma a passé 10 ans au bagne de Robben Island. Président depuis 2009, son deuxième mandat prend fin en 2019.
Et pour terminer l'actualité américaine, le président Barack Obama sera à La Havane, à Cuba dimanche pour une visite historique. Il sera accompagné de sa femme et de ses deux filles. La visite de la famille présidentielle va consacrer de manière spectaculaire le rapprochement entre Washington et La Havane. Après un demi-siècle de tensions, les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques en juillet 2015.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.